Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Aujourd'hui, la transition politique en cours au Soudan sous l'angle du procès d'Omar el-Béchir.
Oui, alors que le nouveau gouvernement tarde un peu à se mettre en place, il devait être annoncé hier mais a été retardé. Quoi de plus symbolique pour ouvrir une nouvelle page que de solder les comptes du dictateur déchu? Il y a quelques mois encore, Omar el-Béchir semblait aussi indétrônable qu'au tout début de sa dictature en 1989. Mais la révolte populaire, d'abord pour protester contre la hausse du prix du pain, et finalement soutenue par l'armée, a eu raison de lui en avril. Procès symbolique aussi parce que depuis la mi-août, Omar el-Béchir est jugé seulement pour corruption. Bonjour Gérard Prunier.
Oui, bonjour.
Vous êtes historien, chercheur émérite au CNRS, spécialiste de la Corne de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est. Vous connaissez évidemment très bien le Soudan. Alors Gérard Prunier, merci d'être avec nous. Quelles informations avez-vous sur le procès en cours d'Omar el-Béchir, duquel nous, depuis son ouverture le 19 août dernier, on a vu des images, mais on ne sait plus rien.
Essentiellement d'une très grande confusion, parce qu'on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur le montant des espèces qui ont été trouvées dans la chambre de l'ancien président.
Parce que c'est ça qu'on juge aujourd'hui.
Oui, c'est pour ça qu'on le juge, pour acquisition illégale de devises étrangères. Or, les chiffres qu'on a varient de 300 000 dollars à 300 millions de dollars. C'est évidemment, on est dans une situation où tout le monde ment à tout le monde.
C'est vrai qu'on ne peut pas résumer ici 30 ans de dictature, et Omar el-Béchir dans ce procès n'est jugé donc que pour ses possessions de, cette possession de devises étrangères et corruption. Cet argent, même si les montants varient, alors c'est incomparable hein, les montants que vous nous annoncez, Gérard Prunier, mais qu'est-ce qu'on peut en dire sur la provenance? Il a déjà dû, Omar el-Béchir, commencer à s'expliquer auprès de la police et à citer des pays alliés qui lui étaient alliés pendant son régime.
Oui, ça c'est tout le monde le sait. D'ailleurs, le président lui-même, l'ex-président, l'admet. C'est de l'argent saoudien et ou émirati. Et quant à la manière dont il avait cet argent, ben ça, il faut remonter, je dirais, disons par exemple au XVIIe siècle en France, pour comprendre ce genre de choses. Aucune différence entre le budget et l'argent personnel du roi. Le roi représente le budget et vice-versa. Alors, si l'Arabie Saoudite donne à Omar el-Béchir 25 millions de dollars, parce que on a des traces précises à certains moments d'un avion privé atterrissant à l'aéroport à Khartoum avec 25 millions de dollars en provenance de Riyad, on empile les billets dans la chambre du chef de l'État.
Et officiellement, c'est le budget saoudien, soudanais alors?
Plus ou moins, on ne sait pas trop.
Est-ce que vous pensez, Gérard Prunier, que ce procès soit en trompe-l'œil, que si Omar el-Béchir est jugé aujourd'hui à Khartoum pour corruption, c'est pour éviter qu'il ne le soit devant la Cour pénale internationale, cette fois pour des crimes de guerre, génocide au Darfour, comme l'en accuse la Cour pénale internationale qui a lancé contre lui un mandat d'arrêt il y a 10 ans, en 2009?
Oui, mais on a vu la totale inefficacité du jugement devant la Cour pénale internationale. Pendant des années, M. Omar el-Béchir s'est déplacé de manière internationale, évidemment en évitant certains pays comme les pays européens ou les États-Unis, où il aurait été arrêté probablement, mais dans tout le restant du monde, il a circulé comme il a voulu. Donc on ne voit pas très bien ce qu'une inculpation devant la Cour pénale internationale pourrait apporter de plus.
En tout cas, personne ne peut l'obliger à s'y rendre?
Non, et puis en plus, il y a un tissu silencieux mais extrêmement actif de gens qui veulent l'éviter, non pas pour lui, pour le sauver ou pour quelque chose comme ça. On sait que son régime est en voie de disparition, mais pour éviter eux-mêmes d'être pris dans les remous qui mettraient à jour leur propre corruption, leur propre complicité dans cet usage illégal enfin, dans la mesure où il y a encore une légalité qu'on puisse définir.
Alors, quelle serait, par exemple, dans la guerre civile au Darfour, où je rappelle que plus de 300 000 personnes ont été tuées entre 2004 et 2007, 2 millions de déplacés. Est-ce que les militaires impliqués aujourd'hui dans la transition politique seraient inquiétés si Omar el-Béchir devait aller devant la Cour pénale internationale? Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui sur leur rôle?
Bien sûr, et au premier rang, le plus puissant d'entre eux, Monsieur Mohamed Hamdan dit Emeti, qui est soi-disant le numéro 2 du conseil militaire, mais en fait son véritable chef, et qui, toutes ces dernières années, était le chef des mercenaires du régime dans le Darfour, et qui est responsable de crimes, d'assassinats, de déportations massives, d'exécutions sommaires, et dont évidemment le nom remonterait à la surface. Enfin, il faudrait d'abord pour ça que ça ait quitté la surface, car il y est déjà.
Donc ça veut dire que ni le chef du conseil militaire de transition Abdel Fattah al-Burhan, ni son numéro 2, Emeti, comme vous le rappelez Gérald Prunier, ne sont aujourd'hui inquiétés par la justice et n'auront à témoigner ne serait-ce que dans ce procès où Omar el-Béchir est jugé pour corruption.
Peut-être auront-ils à témoigner, mais leur témoignage serait explosif et il y a toute chance que ça se termine par une série de mensonges emboîtés les uns dans les autres, puisque ces gens-là sont toujours au pouvoir.
Alors ces militaires qui, pour la première fois depuis des décennies, comme vous l'écrivez dans un article qui paraît ce matin dans Le Monde diplomatique, vont devoir partager le pouvoir avec les civils. Ce sont eux, les civils, qui dominent le Conseil souverain mis en place il y a 2 semaines et qui a 3 ans pour mener la transition et écrire une constitution. Est-ce que le nouveau Premier ministre Abdellah Hamdok a une autorité suffisante aujourd'hui pour pas laisser le Conseil souverain phagocyté par les militaires, les généraux, dont certains, vous venez de nous le rappeler, et pas des moindres, sont impliqués dans la guerre civile au Darfour?
Eh bien ça, on va le découvrir dans les jours qui viennent, et je pense que c'est là aussi qu'il faut voir la cause du retard de la mise en place du gouvernement, parce qu'il est évident que dans les coulisses, il doit y avoir de très forts débats sur la composition de ce gouvernement et sur ce que les gens vont remplacer. Monsieur Abdallah Hamdok, il est au-dessus de tout soupçon. Sa réputation est excellente, on sait très bien ce qu'il veut faire. Et c'est bien son problème, il veut vraiment pousser la transition jusqu'au bout du processus qui a été lancé en décembre 2018. Et la question, c'est, va-t-il y parvenir?
Est-ce qu'il n'a pas regardé le Soudan d'un peu loin toutes ces années? Il n'était pas au Soudan pendant qu'Omar el-Béchir régnait sans partage ou presque sur le Soudan.
Justement, il a du Soudan probablement une trop bonne image. Il est probablement, et d'ailleurs c'est nécessaire hein, pour avoir le courage d'entreprendre ce nettoyage des écuries d'Augias, il a probablement une trop bonne opinion de ce qu'il est possible de faire. Je pense qu'il est en train de se heurter à une réalité extrêmement difficile.
Ouais, il faut dire qu'il a passé toute sa carrière quasiment à l'ONU et qu'il était basé très souvent en Éthiopie, à Addis Abeba.
Oui, ça veut dire qu'il n'était quand même pas trop loin du Soudan, mais il n'était pas sur place et il voyait ce que le régime était avec des yeux pleins de censure. Il avait d'ailleurs tout à fait raison. Maintenant, c'est à lui de faire disparaître les effets de cette censure sur la structure qu'il est maintenant censé gérer lui-même.
Vous parlez des blocages qu'il y a aujourd'hui et qu'il a, ce nouveau Premier ministre, à composer son nouveau cabinet. Quels sont les enjeux de représentativité de ce nouveau cabinet? À quels équilibres doit-il être sensible et attentif?
Eh bien, évidemment, le degré de confrontation qui va être entrepris entre la branche civile et la branche militaire. Or, c'est une sorte de contre-coup d'État au ralenti en permanence. Et c'est évidemment extrêmement usant pour les nerfs et je souhaite beaucoup de courage aux gens qui vont accepter les postes qu'on va leur donner.
avec également un souci, non pas de parité, mais au moins de faire en sorte que quelques femmes soient présentes dans ce gouvernement. En tout cas, c'est ce qu'il a dit et annoncé. Et puis, représentativité aussi régionale, faire en sorte que les ministres viennent d'un peu partout au Soudan. Une dernière question pour conclure, Gérard Prunier. Est-ce que les régimes qui étaient jusque-là proches d'Omar el-Béchir, vous citiez évidemment l'Arabie Saoudite, pourraient aujourd'hui acter du changement de donne politique et aider le nouveau régime en place pour se garder le Soudan comme allié?
Ah ben, il est évident qu'ils vont essayer de tout saboter. Ça, c'est une certitude.
Pourquoi
ils parviendront? Ah ben, parce qu'ils veulent conserver le contrôle, parce qu'il y a une sorte d'axe qui va du Caire jusque chez eux et qui représente, on peut dire, l'anti-perspective du printemps arabe de 2011. C'est une tentative, disons, on pourrait dire, en employant du vieux vocabulaire européen et même français, contre-révolutionnaire. Et bon, parviendront-ils à bloquer cette évolution tout en l'habillant de manière jolie pour que ça soit acceptable pour la communauté internationale, ou bien accepteront-ils ce changement? J'ai beaucoup de doutes quant à leur capacité à accepter le changement.
Merci beaucoup Gérard Prunier d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheur émérite au CNRS et historien. Merci à vous.